Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bris de la circulation. Ce sont des Walkmen. L'invention est due au président d'une grande firme japonaise d'appareils audiovisuels qui désirait, lui, écouter de la musique tout en jouant au golf.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
Une époque actuelle ou révolue, mise en récit par un texte, des archives et surtout sa bande-son. Chaque dimanche à 15h sur France Culture, voici Jukebox. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongé dans la France de la toute fin de la décennie 70, les années Giscard, période de grands bouleversements sociétaux, de la libéralisation du divorce, de l'éclatement de l'ORTF et d'un certain sentiment de modernité dans lequel pourtant la jeunesse s'ennuie. La révolution punk bientôt s'y infiltre. En quelques années s'ouvrent les grands clubs parisiens. Le rock français, boudé jusque-là par les grands médias, se fraye un chemin. C'est le début des années Téléphone, Star Shooter ou Trust, mais aussi de l'émergence d'une scène post-punk ou New Wave, celle des Edith Nylon ou Taxi Girl. Bref, une certaine idée de la France branchée qui basculera en 81 avec l'élection de Mitterrand et dans laquelle on croise des jeunes gens de bonne famille, des fauteuils de velours arrachés, des dandys déglingués et des frites congelées. Aujourd'hui, France 76-82, la nouvelle vague.
Bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Nous voici à nouveau au coin du feu pour notre entretien mensuel, au cours duquel je vous parlerai ce soir de la situation économique et sociale de la France et de notre effort de réforme. D'abord, la situation économique et sociale de la France.
Le transistor, posé sur la table en acajou du salon, personne ne semble l'écouter. Ni monsieur, enfoncé dans son fauteuil à lire le journal, ni madame, qui termine son repassage. C'est un intérieur cossu, confortable. L'année d'avant, ils ont installé partout une moquette beigeasse dont ils sont très contents. Dans l'entrée de l'appartement aussi, où est installé le téléphone familial. Son fil, tire-bouchonné, reliant le socle combiné, a été étiré comme un élastique jusque sous une porte fermée derrière laquelle s'est adossée une jeune fille en pleine conversation. Elle souffle sur la mèche qui lui barre le visage tandis que face à elle, ses idoles rock la toisent sur papier glacé. Elle échange encore quelques mots à voix basse, puis se contorsionne pour éviter d'arracher le fil et se relève, enfile une veste de cuir achetée la semaine précédente et se glisse sans un mot hors de l'appartement et des causeries présidentielles. Dans la ville ce mardi soir, la nuit est tombée, crevée par les néons des pharmacies ou des PMU, les jukebox diffusent à plein tube parmi les papiers gras. Cette France où Giscard, débonnaire, annonce que ça va encore se compliquer pendant un moment, que la crise est là, notre jeune fille en suit les rues anonymes, puis, parvenue devant un bar, elle attend un moment au pied d'un kiosque à journaux fermé. Sa copine est en retard. Elle hésite à entrer dans le rade, retenue par la présence d'une demi-douzaine d'habitués avinés au comptoir. Par la vitrine, elle avise aussi un groupe de jeunes types penchés sur un flipper. Elle les trouve pas mal, alors elle les regarde un moment jouer, tirer sur leur clope, se chambrer, elle n'a pas le son. Elle s'apprête à s'éloigner et faire quelques pas, quand soudain, la belle tignasse brune accoudée au flipper tourne la tête vers elle, la dévisage et lui sourit. Te donne trois balles, la première t'es un môme, tu prends la cadence, tu entres dans la danse, dans la violence, dans les chocs, tu comprends ta chance, tu sais maintenant comment ton histoire commence. Signé Louis Bertignac, ce flipper qui clôt le premier album du groupe Téléphone, racontant cette jeunesse qui joue sa vie de bumper en bumper. Téléphone qui avait vu le jour le 12 novembre 1976 à la faveur d'un concert donné au Centre américain de Paris, boulevard Raspail, à l'emplacement de l'actuelle Fondation Cartier. Jean-Louis Aubert, un jeune des beaux quartiers, se rebelle contre son éducation de scout et d'enfant de cœur et doit s'y produire avec son pote de lycée, le batteur Richard Kolinka, sauf qu'il leur manque deux musiciens. Pour l'occasion, il recrute donc un guitariste, Louis Bertignac, et sa copine de l'époque, la bassiste Corinne Marieno. Tous deux avaient joué un temps dans un groupe de hard rock francilien, les Shaking Streets. L'affluence ce soir-là, au Centre américain, 5 à 600 personnes, raconte quelque part l'impatience qui tiraille alors la jeunesse française. Téléphone et sa formule gagnante allaient devenir en 2 albums et 3 années l'incarnation du renouveau du rock français. La France où jusqu'alors, malgré les cafés, les flippers, les MJC, la jeunesse s'ennuyait ferme. Certes, le moule traditionnel commençait à se fissurer. Giscard, propulsé en 74 à l'Élysée, avait abaissé l'âge de la majorité de 21 ans à 18 ans. Mais en dehors de ça, rien ne semble bouger. La société reste guindée, conservatrice. Aux yeux de la jeunesse, la partie semble jouer, les dés sont pipés. La génération d'avant est aux commandes. Certes, depuis 1975, les couples peuvent divorcer plus simplement.
Nous avons en France un cas de divorce pour 9 mariages. C'est important, c'est tout de même une minorité. Le problème qui m'était donc posé est celui de guérir le mal lorsqu'il existe.
Mais les jeunes, eux, s'en foutent, ils ne sont pas mariés. Certes, l'ORTF, dont la devise clamait fièrement « satisfaire les besoins d'information, de culture et de distraction du public », mais qui était concurrencée de plus en plus par les radios périphériques, l'ORTF est démantelée. Mais la jeunesse, elle, ne semble plus croire en rien. Elle a fini par se faire à l'idée que la société, dans ses travers, n'est pas réformable. L'effervescence post-68, le fameux esprit de mai, tend à se dissoudre. Le sociologue Jean Duvigneau, qui vient de passer 2 ans à son chevet, publie en 1975 le résultat de son enquête « La planète des jeunes », dans laquelle il pointe leur soudaine dépolitisation, la perte d'influence du gauchisme sur eux. La jeunesse deviendrait passive, repliée sur ses problèmes personnels. Devant l'échec des croyances et des idéologies, des utopies, elle se réfugie de plus en plus dans ce que le sociologue qualifie de « niche » qu'il énumère. Appartements plus chaleureux, métiers isolatoires, mais surtout balles, boîtes et drogue.
Mon père, ma femme.
Attitude, le groupe Marie et les garçons formé en 76 à Lyon au sein d'une bande de lycéens. Fin 77, leur premier single, Rien à dire, un rock efficace, était sorti et s'était retrouvé entre les mains de John Cale, l'ex-membre du Velvet Underground. Quelques mois plus tard, au printemps 78, Marie Girard, d'abord chanteuse puis batteuse du groupe, se retrouve avec les autres à New York, où ils enregistraient ce deuxième single, Attitude, avec le même John Cale au piano. Mais n'allons pas trop vite, la New Wave, la Cold Wave à la française n'arrivera qu'un peu plus tard. Pour l'heure, disons que la jeunesse locale se cherche de nouvelles attitudes. De nouvelles attitudes, des échappatoires, des lieux rien qu'à eux. À Paris, ce sont notamment le Golf Drouot, un ancien salon de thé poussiéreux, quoique pourvu d'un étrange mini-golf de 9 trous, mais d'autant de clients, et qu'un type, un certain Henri Leproux, avait finalement transformé en discothèque, mais aussi en temple du rock, y installant une scène permettant, depuis les années 60, à de jeunes groupes de se faire connaître via des tremplins organisés le vendredi soir. C'est là qu'avaient été lancés les pionniers français, Johnny Hallyday, les Chaussettes Noires. Puis, les premières stars anglo-saxonnes y avaient défilé, les Who ou David Bowie. Cette année 76 encore, le Golf Drouot reste un incontournable. Archive Antenne 2.
Si vous le voulez bien, découvrons avec Patrick ce temple du rock'n'roll qu'est le Golf Drouot. Première surprise, vous le voyez, on ne descend pas dans la boîte, on y monte. Un escalier gigantesque, et Monsieur Leproux, le propriétaire, dit qu'il est beaucoup plus facile à descendre qu'à monter, et quelquefois c'est pratique.
Madame, vous êtes la caissière, je voudrais savoir combien de personnes arrivent par soirée ici.
Environ 200 à 300 personnes à la fois. Mais il y en a plus, car la clientèle se partage, ceux qui prennent le dernier métro et ceux qui prendront le premier à 5h30 du matin. Puis il faut les pousser pour partir, vous savez, des fois il fait froid à 5h30, c'est l'hiver, ils sont bien ici, ils n'ont pas du tout envie de partir.
Est-ce qu'ils ont difficulté à payer?
Ah, certains bien sûr, mais dans l'ensemble, ils sont gentils. Il y a toujours un resquilleur, c'est humain, tout le monde l'a fait, c'est tentant.
Pourquoi viens-tu au Golf Drouot?
Parce qu'il y a une ambiance assez sympa et décontracte, et que j'aime bien écouter de la musique et m'amuser un peu, alors, tranquille. Et puis, parce qu'en ce moment, il y a le tremplin d'or et que c'est intéressant de voir un peu les groupes, comment ça évolue en France. Et bon, j'ai bossé pendant 15 jours, j'étais très speed et j'en avais marre. Et je me suis dit, bon, bah, je vais venir faire un tour, me délasser un peu ici, enfin, entendre un peu plus de bruit, mais un autre bruit.
C'est comme un fou, comme ça pendant toute la nuit. Je n'ai pas résisté, elles m'ont dit tu vas craquer. Une fois arrivé, elles ne s'étaient pas trompées. Je n'ai jamais vu ça moi, une villa comme ça. Je n'ai jamais vu ça moi, une vie comme ça. Et j'ai dansé, je me suis défoncé comme un rocker engueulé. Puis mais sans arrêt, je regardais cette beauté. Elle me souriait, je n'arrivais pas à parler. Puis elle est sortie, alors là je l'ai suivi. J'avais l'air de quoi là? J'ai jamais eu ça moi, une chance comme ça. J'ai jamais eu ça moi, une vie comme ça. Quand je pense que ça me disait rien du tout, t'as l'air avec tes copines, danser comme un fou, comme ça pendant toute la nuit. J'ai pas résisté, elles m'ont dit tu vas craquer. Une fois arrivé, elles ne s'étaient pas trompées. J'ai jamais vu ça moi, une vie comme ça. J'ai jamais eu ça moi.
1978, le groupe Starshooter pour ce Betsy Party. Starshooter, eux aussi lyonnais, constitués peu de temps auparavant autour du chanteur Kent Despes, ou plutôt Kent Hutchinson, les musiciens s'affublant tous de noms potaches et anglo-saxons. Il y a Mickey Snack à la basse, Phil Pressing à la batterie ou Jello aux guitares. Ils ont 20 ans et s'attirent les éloges de la critique. À sa sortie, Betsy Party passe d'ailleurs en boucle sur l'antenne d'Europe 1. De même, leur concert impressionne par la puissance scénique déployée malgré les provocations et les jets de canettes de bière. Eux aussi, dès 77, s'étaient produits sur la petite scène du golfe de Rouault. Jusque-là, la scène rock et pop progressive française, malgré son succès auprès de la jeunesse, qu'on songe au groupe Magma, à Ange, à Triangle ou aux Variations, ne bénéficie presque d'aucune promotion de la part des maisons de disques et, par conséquent, d'aucun passage à la radio ni à la télé. L'explosion du mouvement punk en Grande-Bretagne allait rebattre les cartes. Avant même cela, le punk, au début des années 70, trouve déjà des échos dans le petit monde parisien de la musique. Ne jurant que par les Stooges d'Iggy Pop, le Velvet Underground ou les New York Dolls, le journaliste Yves Adrien s'en fait l'écho dès 72 dans les colonnes de Rock and Folk, prônant une révolution rock électrique pour ceux qui aiment le rock violent, éphémère et sauvagement teenager. Des teenagers, écrit-il, qui préfèrent le bubblegum au marxisme, et c'est heureux. La rock music n'a que faire des slogans, l'aventure gauchiste n'est pas dans le concept musical et électrique qui nous préoccupe, plus importante que la mode du twist ou des bottes à semelles compensées. Le punk, dont on trouve les disques importés des États-Unis chez Open Market, éphémère disquaire parisien, créé par Marc Zermati, tête chercheuse musicale, déjà fondateur en 72 d'un label Skydog. À peine trentenaire, Zermati avait ouvert sa boutique dans le quartier des Halles, alors en plein chamboulement, après la destruction des Halles Baltar et la prochaine ouverture du Forum des Halles et du Centre Pompidou. La cave, située sous sa boutique du 58 rue des Lombards, accueille les répétitions des Havrais du groupe Little Bob Story ou bien des Parisiens du groupe Asphalt Jungle. L'été 76, Marc Zermati a organisé à Mont-de-Marsan, dans les Landes, le premier festival de punk en France. Un an plus tard, il remet ça. Deux jours de concert, début août, qui attirent 4000 spectateurs. En tête d'affiche, les Britanniques de The Clash ou Daddy and the Hot Rods, précédés chaque soir de plusieurs groupes français. Strychnine, Les Loos, un groupe de punk 100% féminin, mais aussi Shakin' Street, Marie et les Garçons, Bijoux ou bien Asphalt Jungle. La jungle de l'asphalte, dont le chanteur et leader Patrick Oedlin, qui a fait ses études dans le très conservateur collège Stanislas de Paris, est devenu, 10 ans plus tard, critique dans le magazine musical Best. Oedlin, qui traîne par ailleurs souvent au Gibus, une petite salle située à un jet de pierre de la place de la République où l'on peut manger tard et écouter de la musique. Il y décroche un engagement pour son groupe et en profite pour ouvrir la scène à d'autres formations lors d'un mini festival de musique punk qui aide à la promotion de ce courant. Asphalt Jungle, qui sortira en 78 ce Polymagou, hommage au film de William Klein et aux paroles aussi énigmatiques que son œuvre inspiratrice, quelque chose de bubblegum, à chemin nos uniformes, habitude bien trop étrange, je veux être Polymagou. I'm Polymagoo, troisième single du groupe Asphalt Jungle, sorti en 1978. Pourtant, le groupe ne durera pas et se séparera l'année suivante. Les punks qui se retrouvent donc les soirs au Gibus ou bien dans les premiers McDo qui ouvrent en France, le tout premier sur les Champs-Élysées en 1973. À 6,30 francs le Big Mac et 3,20 francs les super frites congelées, les plus beaux musées du XXe siècle, comme les avait qualifiés Provoke Andy Warhol, deviennent les rendez-vous gastronomiques des punks parisiens, souvent fauchés, du moins pour se nourrir. La plupart des premiers punks, écrit Christian Eudlin, le frère de Patrick et qui chroniquera lui aussi ces années-là, la plupart des premiers punks étaient très gentils, sensibles, doux, souvent timides, ce qui contrastait avec la violence de leur musique et de leurs textes. Ils carburaient au fringanor, des amphétamines, ou bien à l'héroïne, mettant un point d'honneur à ne pas fumer de joint qu'ils considéraient comme des trucs de baba. Cette année 78 est votée la loi informatique et liberté, dont l'article 8 énonce l'interdiction de collecter des données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales, ethniques, les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, de même que les orientations sexuelles. 20 ans avant l'avènement d'Internet, la France posait ainsi l'un des premiers jalons en la matière. Même si, à vouloir protéger ses citoyens des intrusions et de la surveillance des grandes bases de données dont les administrations commençaient à se doter, la France ne réalisait pas qu'elle manquait d'informations, qu'entre sa jeunesse et elle, s'était formé comme un angle mort. Archive TF1, décembre 1978.
C'est en ce samedi la journée de la jeunesse. Le président Valéry Giscard d'Estaing la clôturera par un discours cet après-midi, porte de Versailles. Le président de la République visitera auparavant l'immense exposition consacrée aux problèmes des jeunes. Et à propos des jeunes, et plus précisément de l'éducation des enfants et des adolescents, le Figaro Magazine présente aujourd'hui un sondage. Celui-ci révèle que 86% des parents sont favorables à l'autorité et même à la fessée, et qu'ils sont contre le laisser-faire et le laisser-aller. Mais que veulent les adolescents et les jeunes adultes de moins de 25 ans? Dominique Lory a consulté toutes les enquêtes récentes sur les jeunes, des enquêtes qui se recoupent. Les adultes ne connaissent pas les jeunes.
Contrairement aux étudiants et jeunes travailleurs qui penchent pour l'opposition, les lycéens se prononcent plutôt pour la majorité. Mais chez les moins de 20 ans, le scepticisme est quasi général à l'égard des partis politiques. Beaucoup jugent que la politique est importante, mais qu'elle est dévoyée. Ces constatations ne doivent pas pour autant dissimuler l'existence de minorités. Une proportion non négligeable de jeunes se dit insatisfait, inquiet, mal dans sa peau, en opposition avec la société. Et là encore, la préoccupation principale reste le chômage et la crise de l'emploi.
Or, malgré leur scepticisme, une frange des jeunes, justement, commence à s'agiter. Illustration de cette agitation, juillet 1978 à l'Olympia, où est organisé le festival Le Rock d'ici. Trois soirs de concerts montés par Philippe Constantin, qui travaille alors chez Pathé Marconi. Sur scène, 9 groupes, rock ou punk, font face à 2000 spectateurs dans une ambiance déchaînée. Ainsi, le groupe Métal Urbain ne joue-t-il que 3 ou 4 morceaux le temps que son clavier imbibé de bière ne se prenne les pieds dans les câbles de ses synthés et que tout n'explose. Le reste est à l'avenant. En coulisses, les groupes se foutent sur la gueule pour modifier les ordres de passage. Et tandis que sur scène, Kenz, le chanteur de Starshooter, fait remarquer à la foule qu'à l'époque de Beko, les gens pétaient les fauteuils, cette dernière se retrousse les manches et, un à un, les fauteuils sont déposés sur scène comme les curieuses offrandes d'un rituel. Résultat, 200 fauteuils arrachés et une sulfureuse mais efficace publicité pour la manifestation. Starshooter, qui ce soir-là, pendant sa prestation, accueille en outre une performance de Marie-France, actrice et figure des nuits interlopes parisiennes, laquelle se pointe sur scène sapée en diva rock et commence un striptease irréel. Sauf que Marie-France, militante du Front homosexuel d'Action révolutionnaire et du groupuscule des Gasolines, n'est pas encore arrivée au bout de sa transformation chirurgicale. à l'avant-dernière étape de son effeuillage sur scène. Les punks ont la mâchoire qui se décroche. La nouvelle vague n'a décidément peur de rien et elle ose tout. France Culture, Jukebox, aujourd'hui, 78-82, le rock français, tous azimuts.
C'est la nouvelle vague, plastique et fluo et sky, super dégaine spéciale, électricité en pagaille. C'est la nouvelle vague, sans paradis artificiel, sans illusion superficielle, sans mémoire. C'est la nouvelle vague. C'est la nouvelle vague, sans paradis artificiel, sans illusion superficielle, sans
sans paradis artificiel, sans illusion superficielle, sans mémoire, la nouvelle vague par le groupe Starshooter 1979. Mais la nouvelle vague, cette année-là, reste essentiellement celle des musiciens du groupe Téléphone qui, début 79, enregistrent à Londres leur deuxième album, Crache ton venin. Les textes réalistes abordent de front les thèmes de société, la menace atomique qu'on fait la bombe humaine, ou bien la révolte et les conflits familiaux des adolescents. Porté par une pochette conçue par le photographe Jean-Baptiste Mondino, l'album consacre le groupe 3 ans à peine après son premier concert. Même si, en marge de cette nouvelle scène rock, d'autres courants musicaux sont alors en gestation.
C'est pour essayer de penser à autre chose, parce que c'est tellement triste tout ce qui arrive qu'il faut bien s'étourdir. Alors sortir le plus possible, sortir toute la nuit, aller boire, aller danser, faire le plus de choses possible. Avant qu'on meure, il faut avoir du plaisir, il faut jouir de l'instant.
À l'image de l'étrange et provocateur Alain Pacadis, chroniqueur déglingué des nuits parisiennes, notamment pour le quotidien Libération, invité ici en 78 sur le plateau d'Apostrophe, apparaissent alors des nouveaux punks, ces dandys urbains et sophistiqués qui se défoncent à l'héroïne, dorment le jour et arpentent la nuit les institutions festives qui s'ouvrent en cascade. Il y avait d'abord eu la Main Bleue, ouverte en 76 dans un ancien centre commercial de Montreuil, près de Paris. Initialement fréquentée par tous les Africains et les Antillais qui se faisaient refouler des boîtes parisiennes, la Main Bleue devient un lieu branché, investi par les bourgeois bohèmes blancs de la capitale. En mars 78, dans un ancien théâtre à l'italienne situé près des grands boulevards, avait ensuite ouvert l'inévitable Palace par Fabrice Aimer, devenant le comble des sociabilités people, des vanités chic et délurées. Plus intimistes, les bains-douches sont inaugurés en décembre de la même année, rue du Bourg-l'Abbé, près du Marais, rachetés par deux antiquaires qui en confient la décoration à Philippe Stark. Le premier soir, 2000 personnes se pointent et la préfecture de police, qui redoute des débordements, a posté 8 quarts de CRS de part et d'autre de la petite rue. En l'espace de quelques mois, et avec le concours des médias, Libération ou Actuel en tête, la danse en boîte de nuit, le clubbing comme on l'appelle, devient l'horizon incontournable de la jeunesse urbaine française, ou du moins parisienne. Parmi les créateurs, les couturiers, les stars ou vedettes de passage, on y trouve aussi Gainsbourg et la jeune garde du rock français, comme les membres du groupe Bijoux qui, en 79, sortent sur leur deuxième album une reprise des Papillons noirs gainsbourgiens.
La nuit, tous les chagrins se grisent de tout son cœur.
Les Papillons noirs signés Gainsbourg, que ce dernier avait enregistré en 66 avec Michel Arnaud, mais que reprend en 1979 le groupe Bijoux, trio arty, mélange de rock dur et de romantisme, dans son album « Ok Carole ». En février 1980, le magazine Actuel titre un article d'une formule efficace qui allait devenir une appellation musicale pour résumer l'époque, celle des jeunes gens modernes. Entre les Rennais de Marquis de Sade, de Jacques No ou de Marie et les Garçons, les groupes n'ont pas grand-chose à voir entre eux, mais peu importe. Associé à cette mouvance, le groupe parisien Edith Nylon, formé, là encore, par des lycéens de bonne famille, autour de la chanteuse Mylène Kaski et qui, en 1979, enregistre leur premier album pendant les vacances scolaires. Mylène et sa chevelure de feu si autoproclamant, femme bionique, artère antistatique, perruque de nylon, utérus en téflon, seins gonflés, silicone, lèvres glacées de chrome. Edith Nylon, c'est moi. Edith Nylon par le groupe du même nom dont les paroles parlent de la société d'alors, du féminisme, mais aussi des périls futurs comme les manipulations génétiques ou le transhumanisme et dont la New Wave inspirera par la suite des groupes comme les Rita Mitsouko. Pour l'heure, ce changement de décennie est surtout marqué par le rock et l'émergence d'un nouveau groupe. Trust, formé en 77 par deux types de la banlieue parisienne, le chanteur Bernie Bonvoisin, venu de Nanterre, et le guitariste Nono Krief, originaire des Mureaux, dans les Yvelines. Trust, qui après avoir pâti de l'ombre de Téléphone, connaît un immense succès à partir de 80 avec la parution de l'album Répression, dénonçant le sort de Jacques Mesrine dans la chanson Le Mitard, ou bien l'ensemble du système dont les dés sont pipés avec le virulent antisocial. Il s'en écoule plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dès sa sortie. Cette même année 1980, on trouve aussi d'étranges 45 tours comme ce « À mon âge déjà fatigué » enregistré par le chanteur Pierre-Édouard et sa pop légère, hédoniste, quoique désabusée.
À ton âge marche déjà fatiguée, me répète ma mère complètement alarmée. À propos d'alarme, je viens de foutre police sur la chaîne pourrie de la salle à manger. Pas envie de petit déjeuner, pas de chocolat instantané. Je tiens la pêche, les mecs, ça va cartonner. Chifflote un truc d'Elvis Presley, encore un de ces chanteurs anglais. Y en a tellement, je suis fatiguée. À mon âge déjà fatigué. À ton âge déjà fatigué, me répète ma mère, l'air exténué. Je tiens plus en place, faut que je me casse, mais j'ai oublié de faire mon lit. Et tout d'un coup me vient une envie, si je passais prendre chez elle Sylvie. Sur ma bécane à peine trafiquée, tiens qu'est-ce qu'elle a dit, tiens qu'est-ce qu'elle a dit.
Ça me fait plaisir, tu y es pensé.
Les gars, je me sens plus, je crois rêver. Cette fille est super merde, il est le quart. Faudrait que je me grouille pour l'embrasser. Je vais assurer mais pas me fatiguer. Yaya Gilbert devant la porte du lycée, t'es là à rien foutre, à traîner. Réveille-toi mec, à la demi ATP. Dans le coup Sylvie me plaque un baiser. La vie est belle et sans se forcer, le prof lui devrait se relaxer. Il a des tics qui me fait flipper. Je comprends rien, de toute façon c'est râpé. Mon interro, je l'ai massacré. Je pense à Sylvie qui est vraiment frappée. Puis les pantalons à damier, la nouvelle mode chez les Anglais. Y'a tellement de trucs, je suis fatigué. On est déjà fatigué.
Pierre-Édouard, à mon âge, déjà fatigué, 1980. Mais soudain, avait surgi 1981 et l'élection présidentielle, dans laquelle Coluche ne s'était finalement pas présenté. La jeunesse en avait oublié sa fatigue. Archive Antenne 2, le 11 mai.
Dès 20h, dès l'appel de Lionel Jospin, une foule immense s'était rassemblée sur la place de la Bastille. À minuit et demi, un violent orage éclatait, les farandoles et les danses continuaient cependant, la fête semblait ne pas avoir de fin.
C'est fantastique, absolument fantastique. Enfin, je crois que la France a une possibilité d'échanger. On va voir une l'air.
Vive le tonnerre ! Vive le tonnerre ! Vive la pluie !
Vive la France !
Vous savez ce que c'est que chez Bran ?
Vous savez, moi quand j'étais enfant, déjà on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu, je ne vais pas faire le malin ou le très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé.
Elle avait les manières du grand monde devant sa téléphone.
Fait divers, le groupe Téléphone, extrait de leur deuxième album sorti en 1979. Téléphone, qui s'était toujours posé comme un groupe politiquement engagé, se produisant notamment à la Fête de l'Humanité, qui participe en juin 1981 à un concert géant et gratuit, Place de la République, pour fêter l'accession au pouvoir de Mitterrand. Ils y partagent notamment la scène avec Jacques Higelin et interprètent ce fait divers qui deviendra un temps le générique du journal télévisé de la nuit d'Antenne 2. Les années suivantes seront marquées par l'explosion des radios libres initiées en 1981. Cette même année, le Golfe de Rouault ferme ses portes après un ultime concert. Le rock marque le pas. Bientôt, Téléphone tentera de prendre un virage grand public, mais se séparera, de même que Star Shooter ou Bijou. La Cold Wave, la New Wave à la française, accouchera, elle, d'une sorte de pop réinventé qu'on pense à Étienne Dao ou Niagara, mais aussi au groupe sur lequel on se quitte, le groupe Taxi Girl et son chanteur Daniel Darc, apparu en 1981 et qui, les années suivantes, deviendra l'icône de cette scène chic parisienne, décontractée et moderne. Taxi Girl, dont voici le deuxième 45 tours sorti, le fameux « Chercher le garçon ». Ainsi se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui, France 1976-1982, la nouvelle vague. À lire notamment l'ouvrage consacré à Alain Pacadis, itinéraire d'un dandy punk, signé Alexis Bernier et François Buot, et publié chez Le Mot et le Reste, ou bien encore les 123 albums essentiels du rock français dirigés par Philippe Manœuvre. Rendez-vous sur le site de Jukebox pour retrouver cette émission, la réécouter, la télécharger, exporter les playlists ou nous laisser vos commentaires. Jukebox, une émission préparée cette semaine avec Antoine Villeuse de la discothèque, Émilie Berthaud à la bibliothèque, Marie Chauveau à l'INA. À la technique, c'était Valérie Lavalard. La réalisation était signée comme chaque semaine Agnès Catou. Au micro, à Maurice Chardot. À dimanche 15h pour un prochain Jukebox.